moment dont il fallait se réjouir. L'aube pointait à peine et le quartier dormait encore. Peut-être les gens de cette partie de la ville n'avaient-ils rien qui valût la peine de se lever. Yéma se doutait que l'ambiance devait être très différente la nuit. Mais pour le moment, les rues étaient désertes et mortes, les volets clos et les portes barrées. Il jeta un coup d'œil au ciel qui s'éclaircissait et pressa le pas. On n'allait pas tarder à remarquer son absence à bord, et il tenait à s'éloigner le plus possible du front de mer avant ce moment-là. Quelle énergie son père allait-il déployer à le retrouver ? Guerre sans doute pour son fils lui-même. Yéma n'avait d'intérêt à ses yeux que dans la mesure où il garantissait la satisfaction du navire. Vivacia. Le seul fait de penser à son nom lui donnait un coup au cœur. Comment avait-il pu l'abandonner ? Il ne l'avait pas choisi, il ne lui était plus possible de continuer à vivre ainsi. Mais comment avait-il pu l'abandonner ? Il se sentait divisé contre lui-même. Tout en savourant sa liberté, il sentait le goût amer de la solitude extrême, sans être capable de déterminer s'il s'agissait de la sienne ou de celle de Vivacia. S'il avait existé un moyen de s'enfuir avec le navire, il n'aurait pas hésité. C'était peut-être ridicule, mais c'était vrai. Il avait besoin de sa liberté, elle le savait bien. Elle devait comprendre qu'il était obligé de se sauver. Mais il l'avait abandonnée, prise au piège. Il continua de marcher, déchiré. Vivacia n'était pas son épouse, ni son enfant, ni sa bien-aimée. Elle n'était même pas humaine. Le lien qui les unissait leur avait été imposé par les circonstances et par la volonté de son père, rien de plus. Elle comprendrait et elle lui pardonnerait. Au même instant, il se rendit compte qu'il avait l'intention de retourner un jour auprès d'elle, ni aujourd'hui ni demain, mais un jour. Un moment viendrait, dans quelque avenir encore indécis, peut-être lorsque son père aurait baissé les bras et rendu le navire à Altea, où il pourrait revenir sans risque. Lui serait prêtre, et elle serait comblée par un autre Vestrite, Altea, ou peut-être Seldon, ou encore Malta. Ils vivraient chacun une existence bien remplie, et quand ils se retrouveraient, obéissant chacun à sa volonté propre, leur réunion serait parfaitement heureuse. Elle reconnaîtrait alors qu'il avait fait le bon choix. Ils auraient tous deux grandi en sagesse. Sa conscience le tarauda soudain. Ne se raccrochait-il pas à cette intention de la revoir, uniquement dans le but d'apaiser ses remords ? Cela signifiait-il qu'à ses yeux, sa décision n'était peut-être pas la bonne ? Mais comment cela se pourrait-il ? Il retournait à la prêtrise, afin de tenir les serments qu'il avait prêtés des années plus tôt. Comment cela pouvait-il être mal ? Il secoua la tête, perplexe, et continua d'avancer d'un pas lourd. Il décida de ne pas s'aventurer dans la ville haute. Son père prévoirait qu'il s'y rendrait afin de trouver refuge et aide auprès des prêtres de Sa dans le temple du gouverneur, et c'est là qu'il commencerait ses recherches. Yéma lui-même mourait d'envie de s'y diriger, car il était certain que les prêtres ne lui refuseraient pas leur asile. Peut-être même serait-il en mesure de l'aider à regagner son propre monastère, bien que ce fût beaucoup demandé. Mais il ne s'adresserait pas à eux, il n'attirerait pas son père chez eux pour qu'il martèle leur porte en exigeant qu'on lui rende son fils. Autrefois, même un assassin aurait trouvé refuge dans l'enceinte du temple de Sa. Mais, puisque les quartiers extérieurs de Jamelia s'étaient dégradés, comme il avait pu le constater, il y avait des chances pour que la nature sacrée du temple de Sa ne fût plus aussi respectée que jadis. Mieux valait éviter de créer des ennuis aux prêtres. D'ailleurs, il n'avait aucun intérêt à rester dans la ville. Il allait entamer tout de suite le long chemin qui le ramènerait à travers le gouvernorat jusqu'à son monastère, jusque chez lui. La perspective d'un tel voyage aurait dû le décourager. Mais non. Il ressentait au contraire de l'exaltation à l'idée de l'avoir enfin entamé. Il n'aurait jamais pensé que Jamelia pût renfermer des taudis, encore moins qu'il formasse une si grande partie de la capitale. Il traversa une zone détruite par un incendie. Une quinzaine d'édifices avaient été complètement anéantis, et bien d'autres voisins avaient été noircis par les flammes ou la fumée. On avait laissé les débris en l'état, et des cendres humides montaient une odeur âcre. La rue s'était changée en sentier qui serpentait entre décombres et amas de cendres. Le spectacle était rebutant, et Yémin, bien malgré lui, commença peu à peu à donner crédit aux histoires qui couraient sur le gouverneur. S'il était aussi décadent qu'on le disait, si ses goûts pour l'oisiveté, le luxe et l'hédonisme étaient aussi prononcés qu'on le prétendait, il n'y avait peut-être rien de surprenant à ce que les égouts débordent et que les rues soient encombrées d'immondices. On ne pouvait dépenser l'argent qu'une seule fois, et peut-être les impôts qui auraient dû permettre de réparer les égouts et d'engager des surveillants de rue avaient-ils été investis dans les plaisirs du gouverneur. Cela expliquerait les immenses terrains vagues piquetés d'édifices branlants et le manque d'entretien général qu'il avait constaté sur le port. Les galères et les galéas de la patrouille maritime de Jamelia y étaient amarrés. Des algues et des moules s'accrochaient à leurs coques et la peinture d'un blanc éclatant qui proclamait autrefois leur rôle de protection des intérêts du gouverneur s'écaillait sur leur bordage. Pas étonnant que les pirates sillonnent librement les passes intérieures. Jamelia, la plus prestigieuse cité du monde, cœur et lumière de toute civilisation, se décomposait par ses franges. Toute sa vie, Yémin avait entendu des légendes sur cette ville, sur son architecture et ses jardins extraordinaires, sur ses superbes promenades, ses temples et ses thermes. Le palais du gouverneur, mais aussi nombre d'édifices publics avaient été équipés de l'eau courante et de bains. Yémin secoua la tête en pataugeant dans un caniveau débordant. Si l'eau restait croupissante dans la basse ville, la situation pouvait-elle être meilleure en haut? L'évacuation était peut-être mieux organisée le long des grandes avenues, c'était possible, mais il n'en saurait jamais rien s'il tenait à échapper à son père et aux hommes qu'il avait envoyés à sa recherche. Peu à peu, l'aspect de la ville s'améliora. Il vit des boutiquiers commencer à proposer des pains au lait, du poisson fumé et du fromage, dont l'odeur lui fit venir l'eau à la bouche. Des portes s'ouvrirent, des gens sortirent pour ôter les volets des vitrines et laisser voir leurs articles aux passants. Alors que la circulation des carrioles et des piétons augmentait, Yémin se sentit plus à son aise. Assurément, dans une ville de cette taille, au milieu d'une telle foule, son père ne le retrouverait jamais. Par-delà les eaux étincelantes, Vivacia contemplait les murailles et les tours blanches de Jamelia. Yémin n'était parti que depuis quelques heures, mais elle avait l'impression qu'une éternité s'était écoulée depuis qu'il s'était laissé descendre le long de la chaîne d'ancre, puis s'était éloigné à la nage. Les navires voisins l'avaient empêché de voir où il se dirigeait. Elle n'était même pas absolument sûre qu'il eût atteint la grève en toute sécurité. La veille, elle aurait soutenu que s'il lui arrivait un accident, elle le sentirait. Mais la veille, elle aurait aussi juré le connaître mieux qu'il ne se connaissait lui-même et assuré qu'il ne pourrait jamais la quitter. Quelle pauvre sotte!
Tu as bien dû le sentir quand il est parti. Pourquoi n'avoir pas donné l'alarme? Où s'en est-il allé?
Du bois, se dit-elle, je ne suis que du bois. Le bois n'entend pas, le bois ne répond pas.
Le bois n'éprouvait rien non plus normalement. Elle continua de regarder la cité. Quelque part dans ses rues, Yémin marchait, délivré de son père, délivré d'elle. Comment avait-il pu trancher ce lien si facilement? Un sourire amer tordit les lèvres de la figure de proue. C'était peut-être un trait typiquement vestrite. Althea ne l'avait-elle pas quitté, elle aussi, dans des conditions très similaires?
« Réponds-moi !»
ordonna Kyle.
À mi-voix, Torg s'adressa à son capitaine.
« Je m'excuse, capitaine. J'aurais dû mieux surveiller le gosse. Mais qui aurait pu prévoir ça? Pourquoi est-ce qu'il s'est sauvé après tout ce que vous avez fait pour lui, avec tout ce que vous vouliez lui donner? Ça n'a pas de sens. Une ingratitude.